Bonsoir à tous. Morgan Guiriac au micro. Dans quelques instants, Sel Plus avec Claire Morin-Jubourg. Mais avant, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Un soldat a été tué ce mercredi à Bujumbura par un tir de policier qui tentait de disperser des manifestants opposés au troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des témoins et un soldat. On fait le point avec Jacques Aristide.
L'incident s'est produit dans le quartier de Niakabiga, où l'armée et la police étaient positionnées en raison des protestations en cours. D'après un soldat, certains des policiers tiraient à hauteur d'homme. Son collègue militaire, dit-il, a été touché au cœur et c'est un policier qui a tiré, confie-t-il encore à l'AFP. Après le drame, les policiers ont dû quitter précipitamment les lieux face aux soldats furieux et se sont retirés à environ 1 km. Toujours selon l'AFP, plus de 2000 manifestants ont pris le contrôle de ce même quartier de la capitale. Ils ont érigé de nouvelles barricades et chanté des slogans anti-Nkurunziza comme « Nkurunziza ira à la haie ». Sous pression de la communauté internationale, la présidence burundaise a annoncé ce mercredi un report au 5 juin des élections communales et législatives, initialement prévues le 26 mai, et qui doivent marquer le début des élections générales.
Deux chefs djihadistes ont été tués dans le nord du Mali, d'après le ministère français de la Défense, Amada Ag Amma, alias Abdelkarim le Touareg, et Ibrahim Ag Inawalen, alias Bana, ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par les forces spéciales françaises. Les deux hommes sont parmi les principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'Ansar Din, deux groupes responsables de nombreuses attaques terroristes contre les forces internationales, ainsi que d'exactions répétées à l'encontre des populations maliennes, précise le ministère dans un communiqué. Et la mission de l'ONU au Mali, à nouveau la cible d'une attaque. Un gardien d'une résidence de la MINUSMA à Bamako a été blessé par balle ce matin. L'assaillant a tenté de mettre le feu à un véhicule de la mission onusienne, garé devant la résidence de plusieurs militaires. Il aurait ensuite tiré sur le gardien avant de prendre la fuite, d'après la MINUSMA. Et c'est dans ce contexte que des consultations autour de l'accord de paix au Mali sont prévues dès lundi à Alger. C'est ce que rapporte la médiation internationale dans un communiqué reçu par l'AFP. Alors que les rebelles de la CMA n'ont pas signé l'accord, ces consultations visent à mettre en place les conditions du parachèvement du processus de signature. La médiation s'inquiète notamment de la situation à Ménaka, ville du Nord, occupée par la plateforme, représentant les groupes armés pro-gouvernementaux. La MINUSMA rappelle l'impérieuse nécessité du maintien du cessez-le-feu. Reportage de Boubacar Touré à Gao.
Les affrontements et les embuscades restent réguliers sur le terrain. C'est la ville de Ménaka à 317 km de Gao au sud-est qui est au centre des préoccupations. En violation du cessez-le-feu censé être en vigueur en fin avril, les groupes armés de la plateforme proche de Bamako ont chassé le Imenela de la ville de Ménaka qu'ils occupaient depuis mai 2014. Le Gatia et ses alliés refusent toujours de quitter la ville. Selon son secrétaire général Fard Ag Mahmoud, s'ils doivent quitter la ville de Ménaka, il faut que ça soit conformément à l'application de l'accord du 15 mai et dans le sens du retour progressif des forces de sécurité du Mali. Plus au nord, dans la région de Kidal, les manifestations qui se tiennent depuis quelques jours affectent la fourniture du carburant pour les générateurs. Conséquence, les populations sont privées au jour d'aujourd'hui d'électricité. La mission onusienne souligne qu'elle concentre ses efforts en coopération étroite avec la médiation internationale et en tant que partenaire impartial de tous les Maliens pour faire avancer le processus de paix et pour protéger la population civile contre toute menace et répercussion directe ou indirecte résultant de la poursuite de la violence et des tensions. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Niger, le journaliste Moussa Tchangari a été arrêté lundi pour collaboration avec les islamistes. Responsable de l'ONG Alternative Espace Citoyen, il est très critique sur la situation humanitaire dans le sud-est du Niger, où l'armée nigérienne combat Boko Haram. On lui reproche notamment de faire passer les forces nigériennes pour des criminels et non les djihadistes. D'après la Fédération internationale des droits de l'homme, il a été appréhendé alors qu'il se rendait à la cellule antiterroriste de Niamey, pour y apporter de la nourriture à plusieurs détenus. Et lutte contre Boko Haram toujours, l'Assemblée nationale tchadienne a voté en faveur d'une prolongation de l'intervention militaire contre les insurgés islamistes nigérians. Résolution votée par une majorité de députés tchadiens, 123 voix pour, 14 contre et 3 abstentions, a constaté un journaliste de l'AFP. Lancée en février, l'opération concerne le Tchad, le Nigeria et le Cameroun.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
J'ai été déçu. Ce sont les mots du chef de l'opposition, Seydou Dalein Diallo, à l'issue de sa rencontre aujourd'hui avec le président de la République guinéenne, Alpha Condé. Depuis plusieurs semaines, l'opposition réclame un report de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, ce que refuse catégoriquement le pouvoir. Michel Joseph revient sur les dessous de ce désaccord.
Cela fait des semaines que la communauté internationale appelle à ce retour au dialogue. Un dialogue de sourds, à en croire les premières réactions de l'opposition. C'est moi seule qui ai parlé. J'ai été déçue qu'on n'ait pas échangé. Je m'attendais à mieux que ça, a déclaré le chef de l'opposition, Seydou Dalein Diallo, à sa sortie. Alpha Condé m'a dit « Je suis là pour t'écouter. Je vais confronter tes propositions et observations à celles de la mouvance présidentielle et moi, en tant que président de la République, au-dessus de la mêlée, je prendrai une décision. Au cœur de la discorde, la tenue des élections. Le président Condé insiste sur la tenue des élections présidentielles en octobre avant la tenue des élections locales. L'opposition de son côté dénonce ce qu'elle décrit de ruse. Elle réclame la tenue des communales prévues en mars 2016 avant l'élection présidentielle par crainte que le personnel communal nommé par le pouvoir n'influence le scrutin en faveur du régime en place. À travers la capitale Conakry, les partisans de Condé vantent déjà la victoire de leur leader, un triomphalisme qui anime les esprits et provoque la colère de l'opposition, surtout que les dernières élections régionales ont eu lieu il y a une décennie. Une colère risque de monter d'un cran. L'opposition est déterminée à envoyer ses partisans dans les rues à travers le pays. Maintenant, le virus Ebola fait moins de ravages. Le militantisme a repris de la vigueur.
Au Bénin, l'opposant Adrien Oumbeji a été élu à la tête de l'Assemblée nationale avec 42 voix sur les 83 que compte l'Assemblée béninoise. Et dans le reste du monde, l'Indonésie et la Malaisie ont décidé maintenant d'accorder un refuge provisoire aux milliers de migrants et victimes de trafic humain à bord de bateaux en perdition. Des précisions sur cette volte-face avec Timothée Donongmaï.
Cette versée a été annoncée aujourd'hui à la suite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Thaïlande qui étaient réticents à apporter assistance aux migrants. La Thaïlande ne s'est pas associée à la proposition, son ministre des Affaires étrangères expliquant qu'il devait au préalable en référer à son gouvernement. Mais Jakarta et Kuala Lumpur se sont engagés à ne plus refouler les bateaux de ces migrants qui fuient la misère et les persécutions au moment où des centaines d'entre eux étaient à nouveau secourus par des pêcheurs indonésiens. Les trois pays avaient accueilli environ 3000 naufragés en quelques jours, mais ils ont aussi refoulé plusieurs bateaux, s'attirant les foudres des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. Les bateaux transportent des Bangladais qui veulent échapper à la pauvreté, ainsi que des membres de l'ethnie Rohingya, communauté musulmane persécutée et marginalisée, vivant pour l'essentiel en Birmanie, un pays largement bouddhiste qui a également paru assouplir sa position dans cette crise.
Nucléaire iranien, les inspecteurs internationaux n'auront pas accès aux installations scientifiques et militaires de l'Iran en vertu de tout accord sur le nucléaire avec les puissances mondiales. Déclaration ce mercredi du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Il a également souligné que l'Iran ne cédera pas à des demandes excessives. Les négociateurs de l'Iran et un groupe qui comprend la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et l'Allemagne sont parvenus à un accord cadre le mois dernier sur le nucléaire iranien. Ils se sont donnés jusqu'au 30 juin pour l'accord final. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, Morgane Guiriec et je cède la place à Claire Morin-Gibourg qui vous propose Ça et plus.
Soyez au cœur de la...